au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie. Chaque semaine, notre lexicographe Jean Pruvot vous offre dans sa rubrique mot pour mot l'étymologie de deux mots. Mais aujourd'hui, dans cette émission Au fil des pages, Jean Pruvot, qui est mon invité, n'évoquera qu'un mot et un seul, Chine.
Chine.
Bonjour Jean Pruvot.
Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous ici pour parler de la Chine.
Je rappelle que vous êtes professeur de lexicologie et de lexicographie à l'université de Cergy-Pontoise et que vous pilotez un laboratoire consacré aux dictionnaires et à leur histoire, que vous dirigez par ailleurs une collection de dictionnaires aux éditions Bordas et que vous organisez chaque année en mars, et cette année ce sera le 18 mars 2009, sur le thème de dictionnaires et sciences, une grande journée des dictionnaires, manifestation internationale à laquelle Canal Académie s'associe depuis plusieurs années. Alors Jean Pruvot, pourquoi un seul mot, le mot « Chine » ?
Alors, le mot Chine est à lui tout seul un programme, 1 milliard et quelques d'habitants, des Jeux Olympiques il y a pas très longtemps. Et par ailleurs, à lui-même, il est un programme pour les collectionneurs des dictionnaires, qui aiment Chine et les dictionnaires. Ça, c'est une manière de présenter les choses. Et puis, il y a l'idée de faire un dictionnaire de la Chine avec ce sous-titre ou ce titre qui se poursuit, la Chine des dictionnaires, c'est-à-dire comment les dictionnaires évoquent la Chine. Alors évidemment, il y a les dictionnaires d'aujourd'hui, mais c'est surtout les dictionnaires d'hier qui nous intéressent par leur côté un peu facétieux, et pas toujours facétieux d'ailleurs, parfois
un
c'est agressif.
Un peu sérieux,
aussi,
oui, hein, un peu agressif.
Admiratif et agressif à la fois.
Donc votre ouvrage, celui que vous venez de faire paraître et que nous examinons ensemble aujourd'hui, c'est « Dictionnaire de la Chine, la Chine des dictionnaires », un double titre en effet, et c'est paru aux éditions des Silves. C'est le site des éditions des Silves, c'est www.silves-edition.com. Je le dis parce que c'est une maison d'édition qui n'est pas
qui
parmi
petite,
les grandes, qui
petite.
Est petite, mais qui mérite.
Voilà, et qui même a un côté, disons, artisanal, et pour le professeur d'université, un certain écho, puisque c'est une étudiante de l'université de Cergy, qui, à la suite d'un master, comme on dit, ingénierie éditoriale, a lancé sa petite maison d'édition. Donc c'était pour moi l'occasion, en tant que professeur, de lui donner un coup de pouce.
Bravo. Alors, ce dictionnaire de la Chine, comment se présente-t-il ? On a d'abord envie de vous poser une première question, Jean Pruvot. Le mot « Chine » lui-même, il apparaît dans les dictionnaires à quelle époque ?
Alors, le mot « Chine », en réalité, apparaît dès les premiers dictionnaires monolingues français, donc 1680 du côté de Richelet, et surtout Furetière. Et ensuite, il est développé du côté de l'encyclopédie. Mais les sens vont beaucoup évoluer, et on va se retrouver effectivement avec un mot qui mérite d'être suivi. Il y a le radical « Chine ». Chine, à partir duquel ont été construits toutes sortes de dérivés, et évidemment China, Chiné, Chineur, Chinure, Chinois, Chinoisé, Chinoiserie, le tout avec majuscule ou pas de majuscule, c'est une très grande famille.
C'est une grande famille, mais dont les mots ont peut-être changé de sens, parce qu'entre Chiné, c'est-à-dire chercher à la brocante, et Chinoiserie,
il y a même une différence. C'est une question, vous savez, le dictionnaire, pour le lexicographe, c'est l'occasion d'apprendre. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la science infuse. Quand on commence un dictionnaire de ce type, on apprend beaucoup et on consigne très vite tout cela. Et on essaie de ne pas oublier d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas toujours par cœur ce qu'on a rédigé. Mais en fait, entre le fait de s'intéresser à la Chine et le verbe « chiner », par exemple des dictionnaires ou « chiner » dans une brocante, ce sont purement et simplement des homonymes. Ce ne sont pas des mots qui ont la même racine. Pourtant, on peut chiner un chine, c'est-à-dire un vase de chine. Hein, donc, on a là toute une histoire que je vais peut-être vous relater rapidement. On va commencer par le chiner, C-H-I-N-E-R ou C-H-I-N-E accent aigu. Ça a d'abord été ER. Il a existé et il correspondait bien au pays. Au XVIIIe siècle, on le retrouve dans l'encyclopédie. Et le chiner, donc, correspondait au tissu,
oui,
qui imitait...
Bon, on dit toujours un pull chiné, gris chiné.
Voilà, la chaîne était composée en réalité de fils de couleurs différents. Alors, d'où des bas chinés, des tapis chinés. On aura aussi, évidemment, tout ce qui correspond au textile, le chinage, qui est enregistré dès 1753 dans l'encyclopédie. Le chineur, alors le chineur avant d'être celui que nous sommes sans doute à la recherche de l'édition rare de l'Académie ou de tel ou tel ouvrage que nous sommes le samedi matin et le dimanche. Le chineur, c'est d'abord celui qui fait du tissu chiné, hein, et qui sait donc retrouver ce type de tissu avec la chinure. Et la chinure, on l'a dans Zola, qui évoque par exemple au sens figuré la chinure brouillée de la foule. Ce qui est très joli, parce qu'on imagine cette foule bigarrée, mais dans le fond, la chinure, c'est très joli. Et puis alors, bien entendu, le chineur de la brocante. Et là, on m'aurait posé la question avant d'avoir travaillé à ce dictionnaire. Je pense que j'aurais inventé en disant que je ne savais pas trop, mais que sans doute que ça venait peut-être
du fait de rechercher. Non, en fait, ça ne vient pas du tout.
Absolument pas. En fait, la chine du brocanteur, de même que le chineur, eh bien, chiner, c'était le métier du colporteur de marchandises diverses qui, au XIXe siècle, mais encore au début du XXe siècle, allaient dans un territoire donné, souvent en banlieue parisienne, dans un secteur quand même qui géographiquement était possible, notamment à pied, eh bien, pour récupérer des objets. Mais au début, c'est qu'il portait sur lui, comme le colporteur, un sac lourd, un ballot, et il s'échinait. Et là, vous avez compris.
On a coupé le début.
Il s'échinait, donc il portait sur son échine bien des poids très lourds. Et évidemment, un chineur, forcément, rapporte sur son dos des choses lourdes, parfois. Et voilà l'origine du mot chiné.
Alors Jean Bruffaut, il faut, je crois, le confesser. C'est le moment de vous confesser. Vous êtes un dicopathe absolument invétéré. Vous collectionnez les dictionnaires.
Écoutez, devant votre gentillesse, je suis obligé de me confesser absolument, sans rémission. Oui, les journalistes disent que j'en ai 10 000. Je pensais qu'ils exagéraient un petit peu, mais hélas, j'ai fait un déménagement entre-temps et je me suis échiné à porter ces dictionnaires par caisse entière. Et effectivement, j'en ai autour de 9-10 000. Alors, il faut évidemment être correct. Tous mes dictionnaires ne sont pas des gros in-quarto ou des in-folio. Il y a parfois un petit ouvrage de 40 pages sur la coiffure, les mots de la coiffure. Pour moi, c'est aussi un dictionnaire. Mais enfin, j'ai par exemple les 100 petits Larousse, et un peu plus même maintenant, puisque le premier était de 1905. Et ça, en chinant, justement, dans les brocantes.
Alors justement, puisqu'on parle du Larousse, comment le grand Larousse du 19e siècle présente-t-il la Chine? Car c'est l'un des intérêts de votre ouvrage, c'est de nous rappeler comment les Européens d'hier, ce n'est pas si ancien, présentaient la Chine, et vous dites, en jetant de l'eau sur le feu, ou en tout cas de l'huile sur le feu, le chaud et le froid.
C'est ça, voilà. C'est vraiment le chaud et le froid, et c'est sans doute la situation depuis le 18e et même un peu avant, depuis Marco Polo à la limite, c'est-à-dire une sorte d'admiration pour ce pays qui est d'une civilisation si raffinée et si différente de la nôtre et si éloignée, avec ce qui surprenait toujours des secrets de fabrication, comme la soie, la route de la soie était à elle seule déjà tout un mythe. Et l'idée pour les Romains et longtemps au Moyen-Âge que quand même ce tissu aussi beau et aussi fin ne pouvait pas venir d'une chenille gluante. Et donc, vous voyez, alors c'est sans doute dans cette image que se retrouve la Chine. On est admiratif. En même temps, on a une sorte de répugnance devant un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas, notamment pour la nourriture. Et en même temps, on est quand même un pays colonialiste. Et par conséquent, il s'agit d'affirmer l'Europe, et volontiers encore au XIXe siècle, au détriment
de la Chine.
Par exemple,
Pierre Larousse s'en prive pas.
Alors, je vais donner un exemple tiré de Larousse. Dans le grand dictionnaire universel du XIXe siècle, on est donc en 1876. Au moral, le chinois est doux, poli, ami de la joie, mais, et là ça se dégrade, mais poltron, vénal, vindicatif, enclin à l'ivronnerie, il est d'un intolérable orgueil national. Et c'est peut-être cette dernière formule qu'on lui reproche le plus, cet intolérable orgueil national pour un pays colonisateur comme l'était l'Europe, c'est évidemment... Alors, il n'est pas le seul. Quand on prend William Duquette, par exemple, on a parfois des choses effrayantes concernant le physique. On n'apprécie jamais mieux la suavité des lignes, l'alternative de saillies et de cavités, l'accord harmonieux des traits et l'agréable perfection d'un visage européen que lorsqu'on considère attentivement un Chinois. C'est d'une horreur absolue. C'est tout à fait l'ethnocentrisme de l'époque. Alors, j'aurai d'autres, le dernier.
Ça, vous a semblé intéressant historiquement de rappeler ce regard européen ?
Oui, parce que c'est la partie, dans le fond, qui s'intitule « La Chine des dictionnaires » et qui fait que systématiquement, pour chaque article, on essaie de présenter des extraits de dictionnaires anciens montrant à la fois une certaine mauvaise foi, en même temps une ignorance et un regard de l'Européen qui a totalement changé, bien sûr, au 20e siècle et 21e siècle. Là, je lis juste ce dictionnaire de la conversation. L'assiduité, la politesse, l'amour de la paix, la douceur forment les traits distinctifs du caractère de cette nation. Il n'est pas non plus à ses yeux de sentiment plus sacré que l'amour filial et la fidélité entre le souverain. Alors, on peut s'arrêter là. Et on a une citation très valorisante. Et c'est d'ailleurs ce que je souhaite de mes lecteurs, c'est qu'ils comprennent bien, je le mets à chaque fois, qu'il ne s'agit pas d'un jugement que je reprends à mon compte, c'est justement pour le dénoncer.
Hein, oui, oui, bien sûr.
Il est mis en avant. Et alors, est ajouté, donc après le chaud, voilà, le froid, le glaçant même, mais la luxure, l'ivrognerie, une propension marquée à tromper dans les affaires de commerce, comme dans les relations ordinaires de la vie, la poltronnerie, la souplesse, un intolérable orgueil national. Vous voyez, la formule
revient. Oui.
Et elle n'est pas du même auteur. Un opiniâtre attachement aux anciens usages, une absence absolue de compassion pour les souffrances d'autrui, un vif penchant à la vengeance et une vénalité extrême sont autant d'ombres au tableau que nous venons de tracer de ces bonnes qualités. On voit qu'il y avait du chemin à faire. Et d'une certaine façon, ce dictionnaire, et c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai placé un petit peu sous le, non pas l'égide, parce que je ne lui ai pas demandé son avis, ça n'était pas très courtois de ma part, mais avec admiration pour François Cheng de l'Académie française, bon, tout cela méritait d'être corrigé et de montrer le grand pays que c'est, cette immense civilisation.
Absolument. Justement, j'allais vous demander pourquoi un hommage à François Cheng, à la page 9 de ce livre, Dictionnaire de la Chine. Est-ce que parce que vous l'admirez personnellement, ensuite parce que vous le tenez pour le grand écrivain du XXe siècle ?
Je l'admire, effectivement. Je ne dirais pas personnellement, parce que je pense qu'on est beaucoup
à
l'admirer. Il y a de secrètes connivence entre le grand homme qu'il est, le petit homme que je suis, mais avec des goûts qui s'en rapprochent. Je m'explique, mon père était professeur de sténodactylo. Et donc, à 9 ans, déjà, je tapais sur le clavier. Bon, ça m'a été bien utile. Mais la sténo, bon, qui m'a été moins utile, à 10-11 ans, j'apprenais la sténo, et la sténo, c'est de la calligraphie. Hein, n'oublions pas que c'est toujours au crayon de papier, avec un crayon HB, ni trop gras, ni trop dur, hard et blackness, hein, c'est ça, HB, et qui a les signes appuyés, les signes non appuyés, qu'il faut suivre tout un tracé. Et la calligraphie est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc si vous voulez de savoir que François Cheng non seulement est un très grand écrivain, un homme d'essai, un philosophe, mais aussi un calligraphe, bon, c'est quelque chose qui m'émeut. D'où évidemment le fait de... Alors quand il s'agit de la Chine et quand on a une profonde admiration pour l'Académie française, et qu'on fait un dictionnaire, je ne pouvais pas échapper quand même à cela. Mais il y a aussi des petites phrases. Bon, vous le savez, j'ai fait un dictionnaire de citations, donc je suis souvent à la recherche de la petite phrase qui résonne, qui me semble belle. Et j'en prends une. « N'oubliez pas, dit-il dans un entretien en mars 2002, n'oubliez pas, on vit juste pour quelques rencontres. » Et c'est vrai que le dictionnaire, c'est un lieu de rencontre extraordinaire. Or, il y a d'autres phrases comme ça de François Cheng qui m'ont marqué. Hein. Celle-ci, parce que je crois que ça s'approche bien de ce que nous avons voulu faire, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai dirigé le dictionnaire, je l'ai rédigé en grande partie, mais ça a été aussi pour mes étudiants, mais en master, vraiment des vrais chercheurs, bon, un galop d'essai. Hein. Il dit ceci, « D'expérience, je sais, on ne peut connaître sa propre meilleure part que grâce à la connaissance de la meilleure part de l'autre. Et sa propre meilleure part s'épanouit d'autant au contact de la meilleure part de l'autre. » Un dictionnaire, c'est peut-être ça.
Voilà, cette fraternité. Vous parliez de la calligraphie et justement ce dictionnaire de la Chine et la Chine des dictionnaires offrent des calligraphies, ce qui est tout de même assez rare. Comme votre dictionnaire est thématique, il y a 18 thèmes, chaque thème est illustré d'une calligraphie. Alors par exemple, au mot « alimentation », qui est le premier thème de ce dictionnaire, on trouve la calligraphie du mot.
Voilà.
Qui vous a fait ces calligraphies ?
Alors, ce sont des calligraphies qui ont été faites par Liu Xiang. Alors, je risque de prononcer très mal. Hein.
Vous ne parlez pas le chinois,
non,
si je comprends
non,
bien.
Non, hélas, hélas. Liu, qui a suivi une formation en calligraphie chinoise et arts orientaux à Taïwan, qui est diplômé des Beaux-Arts de Taïwan, ainsi que de l'École normale supérieure d'art de Cergy-Pontoise. Donc voilà le lien. Hein, c'est quelqu'un que nous connaissons sur Cergy. Elle expose aussi des œuvres au Japon. Alors je veux dire que c'est par le biais de l'éditrice que nous avons eu ce choix de calligraphie. Et comme il y a 18 thèmes, alimentation, construction, beaux-arts, cinéma, calligraphie, faune et flore, géographie, habillement, ben je vais être plus vite, histoire, langue, parce que là, je vais lasser mes auditeurs, mais pour montrer un petit peu le plan de l'ouvrage, littérature, loisirs, maison, musique, sciences, spectacle, spiritualité, sport et donc aussi arts martiaux. Chacun de ces 18 thèmes est illustré à l'oreille du chapitre par une calligraphie, que je ne sais pas lire non plus. Hein,
non, mais on l'admire, c'est déjà voilà, ça. Alors, à l'intérieur de chacun des thèmes, vous déclinez donc des articles, comme tout dictionnaire, par ordre alphabétique. Donc, évidemment, il y a à peu près 160 articles.
C'est cela. Et alors, si on regarde un petit peu la table des matières qui est en... plus exactement le sommaire, qui est en début d'ouvrage, systématiquement, il y a une présentation générale des mots retenus avec leur étymologie, leur histoire. Puis une sorte de chapeau pour évoquer, alors par exemple pour le premier chapitre, l'alimentation, pour évoquer l'alimentation en général en Chine. Puis on reprend chacun des mots, alors quels sont les mots qui ont ici été choisis? Canard laqué, fondue chinoise, ketchup, parce que le mot, le premier, vient de Chine. Nem et rouleau de printemps, pour bien montrer que nem est vietnamien, enfin, qu'il y a des différences, on fait des erreurs, bien sûr. Nid d'hirondelle, œufs de 100 ans, riz, thé, tofu, vermicelle chinois, wok. Là, on a des mots français. Faune et flore, ça sera bambou, chocho, ginkgo, ginseng, glycine, kumquat, litchi, longan, lotus, etc.
Donc et alors chacun... d'abord une petite présentation générale voilà. De chacun des mots.
D'abord une petite présentation
voilà.
Générale
avant de rentrer
de
dans les détails.
Puis présentation générale du thème de l'alimentation, ou alors évidemment on en profite pour glisser quelques citations très déplaisantes de Larousse qui ironise sur la nourriture chinoise en oubliant complètement qu'on mange des grenouilles et qu'on mange des escargots, ce qui paraît aussi monstrueux pour d'autres peuples. Hein. Quand vous avez par exemple Pierre Larousse, il évoque le chat destiné à l'alimentation qui est tenu à la tâche et nourri de résidus de riz. Et puis il ajoute complaisamment que cela menace de priver les rats de leur cause finale. Et il ajoute, les Chinois, on est au 19e siècle, les Chinois y ont pourvu, et puis Larousse est le mauvais esprit, rappelons que sa mère était aubergiste.
Oui.
Et donc il devait défendre sa maman. Les Chinois y ont pourvu en se chargeant de les manger, les rats, frais ou salés. L'élevage des rats est une industrie importante. Alors toutes sortes, les crapauds rôtis d'abord, hachés ensuite, se mangent. Et tout cela, bon, évidemment, est très exagéré.
Mais ça a un caractère à la fois historique et pittoresque.
Et puis après, évidemment, à nous de montrer que la nourriture chinoise, qui est une des plus grandes du monde, si ce n'est la plus célèbre, bon, respecte l'équilibre entre le yin et le yang. Donc on évoque cela dans les articles, en montrant combien à chaque fois il y a deux parties indispensables, le fan, c'est-à-dire la nourriture principale, le kai, la partie accessoire, que tout cela doit être très mesuré, que l'idéal c'est d'avoir 9 invités, on explique ce que sont les nids d'hirondelles. Bref, c'est un parcours, c'est un voyage. Hein.
C'est un voyage, voilà. Mais en même temps, je dois dire que les chapitres les plus passionnants, ce sont tout de même, pour moi, ceux qui concernent la langue chinoise, parce que c'est votre spécialité tout de même d'étudier les langues, l'écriture, les mots, la prononciation, tout ça, ce sont des parties importantes.
Oui,
évidemment.
Ce sont d'ailleurs pas les plus faciles à faire.
Oui, sans doute.
Parce que autant il m'est facile de parler d'un... Enfin, facile, non. Mais je peux étudier un dictionnaire étranger des langues indo-européennes. Ça devient déjà très difficile dans d'autres langues. Et alors là, bon, évoquer par exemple les dictionnaires En Chine, quand une langue comme le chinois peut compter jusqu'à 80 000 caractères, 7 000 qui sont nécessaires à la maîtrise de la langue écrite, 1 000 à 2 000 utilisés couramment, 1 000 autres qui peuvent être, disons, permettent de lire la plupart des publications, on se retrouve avec des dictionnaires extrêmement compliqués qui, pour nous-mêmes, restent parfois une sorte d'abstraction. Et puis alors, il faut être honnête, ouvrir un dictionnaire chinois quand on ne parle pas la langue chinoise, ça devient difficile.
Absolument.
Mais bon, là, il y a eu une évolution, puisque on sait que, en ce qui concerne les dictionnaires, depuis peu, au XXe siècle, la République populaire chinoise a introduit donc un nouvel outil, c'est la transcription phonétique en pinyin, et qu'à partir de là, pour nous, ça devient plus simple. Et est sorti il y a peu de temps, d'ailleurs, un dictionnaire du chinois chez Larousse. Bon, qui là permet de mieux saisir, de mieux comprendre. La phonétique, évidemment, nous aide considérablement.
Mais même l'histoire de la langue, que vous détaillez beaucoup, Jean Prouvot, dans ce dictionnaire de la Chine, l'histoire de la langue n'est pas si facile, parce qu'il n'y a pas une langue, mais des langues de Chine. Enfin, voilà. Donc là, dans les pages 184 et 185, il faudra vraiment s'y pencher. Voilà.
Chacun des articles est précédé d'une épigraphe qu'on puisse, que j'essaie de trouver dans nos grands dictionnaires. Et là, il y en avait une très belle de Pierre Larousse, à l'article Chine, la langue chinoise sur laquelle on a écrit tant de choses absurdes et répandu tant d'idées fausses, peut enfin être étudiée avec fruit. On est en 1876.
Un peu de positif.
Voilà, et ça manque pas de charme, parce que Larousse, il était, vous le saviez, partisan de la linguistique historique. Il était finalement très moderne en termes de linguistique, encyclopédiste, et du même coup, quand il commence à évoquer la langue chinoise, c'est avec beaucoup de respect. Et là, alors bon, si on rentre dans l'histoire de la langue chinoise, ça devient très 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 compliqué. On a essayé de le clarifier le mieux possible.
Oui, c'est très bien présenté, assez clair, et on peut au fond apprendre l'essentiel dans ce livre, de même qu'on apprend l'essentiel de la littérature, qu'on peut aussi lire avec beaucoup de profit et d'amusement le cinéma, qui est une partie importante de la culture chinoise, et puis qu'on s'informe beaucoup aussi sur la géographie. Je dois dire que j'y ai appris beaucoup de choses. Mais c'est donc un livre que vous avez voulu, Jean Prouvot, autant comme un dictionnaire, c'est le titre l'indique, dictionnaire de la Chine, mais plutôt comme un guide culturel, c'est-à-dire qu'on peut le lire pour se faire plaisir, au fond, et pour même pour voyager.
Oui. L'idée de départ était d'évoquer la Chine dans un ordre alphabétique de thèmes et de mots. Bon, en quelque sorte, la Chine en 160 thèmes. Que ce soit facile à consulter, donc il y a un index à la fin. Il y a un sommaire, bon, qui je crois est très précis. Puis l'ordre alphabétique, qui évidemment sert de guide dans chaque chapitre. Et en même temps, qu'on puisse le lire, alors exactement comme on le fait dans un dictionnaire, mais c'est un peu plus ardu, au hasard. Hein, c'est-à-dire, on ouvre et j'ouvre là, je tombe sur, je mets mes lunettes, Pékin, bon, à côté, j'ai mer de Chine, je refeuillette, je tombe sur climat, un peu plus loin, je tombe sur histoire du cinéma chinois, calendrier. Et donc ça, c'est le plaisir de la cueillette sur un sujet que l'on aime ou qu'on a envie de connaître. Et l'idée aussi, c'est que celui qui va partir en Chine, qui va voyager en Chine, c'est pour ça que l'idée de guide est peut-être apprendre presque au sens propre, comme ces guides de voyage, c'est bien entendu de bénéficier du guide bleu, du routard et de toutes sortes
de petits
futés.
Et des autres, qu'on ne citera pas pour ne pas faire de publicité.
Bon, voilà, il y en a tenté plus, et souvent excellent d'ailleurs. Mais là, c'est un regard différent. C'est l'histoire du mot, c'est ce que donnent les dictionnaires anciens, et comme nous l'avions fait pour le Japon, puisque c'est le deuxième de la série, il y avait le Japon auparavant, on se retrouve là avec, je crois, quelque chose qui n'est pas dit dans les autres, ou dit différemment. En tout cas, comme toujours. Et bien sûr, on n'invente pas la géographie de la Chine, on ne réinvente pas...
Oui, mais c'est dit autrement, par d'autres entrées.
C'est dit autrement,
voilà,
mais en revanche, ce qui a été dit dans l'encyclopédie sur le Tibet, ce qui a été dit sur le Yéti au XXe siècle, dans tel ou tel dictionnaire, souvent la première entrée du mot dans le Petit Larousse. Hein, c'est souvent que je prends badminton, quand est-il entré? Quand je dis le Petit Larousse, ça pourrait être le Petit Robert aussi. Il se trouve que le Petit Larousse est millésimé de 1905 à 2009. Et qu'en conséquence, comme je les ai tous, je peux dire, voilà, il est entré à telle date. C'est parfois le petit Robert, où je sais qu'il est entré à telle date, parfois le Hachette aussi. Et ça, ce sont des témoignages.
Jean Prouvot, ce dictionnaire de la Chine des dictionnaires que vous concevez comme un guide culturel, est paru aux éditions des Sylves. Je rappelle le site de cette maison d'édition, www.sylves-edition.com. En plus, cet ouvrage n'est pas très cher, 19 euros pour un dictionnaire.
Il se commande sur Internet.
Voilà, il se commande sur Internet. Vous dirigez aussi où vous publié dans cette collection qui s'appelle « Pays, mots et dictionnaires », c'est ça, où vous avez fait le Japon et la Chine.
Voilà, nous avons l'an dernier publié le Japon, le dictionnaire du Japon, le Japon des dictionnaires. Donc cette année, le dictionnaire de la Chine.
Et le prochain,
c'est le Québec.
Le Québec.
Qui est un autre enjeu d'ailleurs, parce que là, nous serons lus par nos amis québécois. Donc c'est un double regard et c'est quelque chose de passionnant. Je vais y associer d'ailleurs des gens que vous avez eu l'excellente
qui nous ont fait
idée,
le plaisir de venir à Canal Académie, Monique Cormier, voilà absolument. Voilà. Merci Jean Prouvot de cette belle présentation de la Chine à travers votre dictionnaire de la Chine. Et à bientôt pour un autre mot, alors avec votre rubrique hebdomadaire sur Canal Académie.
C'est un grand plaisir.